Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Say what?
Roquet Rouge sur CFM.
Bonjour.
Salut.
Salut.
Bonjour bébé Roquet.
Donc, voilà. Vous l'avez deviné, vous écoutez Les Roquets Rouges sur CFM Radio 107.9 ou vous nous réécoutez sur cfmradio.fr. Aujourd'hui, on reçoit des copains de Action Libertaire Ruthénoise. Donc, bonjour Magali, bonjour. Florian et Lucas.
Salut. Bonjour.
Niveau roquet, pour le moment, on a Katia.
Salut.
On a Guillaume qui Salut. Est parti s'occuper de...
Salut.
Ah, il est là. Et peut-être Benjamin qui est un peu contaminé par Romain en ce moment. Et Salut. Du coup, on ne sait pas s'il va arriver ou non.
Et après, on le dit maintenant pour Romain qui a une, quand même une super bonne excuse.
Ouais, cette fois-ci, il a une bonne excuse. Vas-y, je te laisse faire, Guillaume.
Bah, félicitations. Son excuse, c'est qu'il a, il est maintenant lui aussi papa d'une petite fille, Anna, née le 7 mai dernier. Voilà, félicitations. Le père, la mère et l'enfant se portent bien. Et là, c'est effectivement, on a validé son mot d'absence. Là, pour une fois, c'est bon.
Oui, mais on va plus s'entendre après sur les roquets. Hein. Ça va pleurer dans tous les
coins. Il faudra ouvrir une crèche. Hein, voilà. Et d'ailleurs, je note que tous les roquets mâles de cette saison sont papas maintenant.
Merci pour cette précision. Oui, c'est bien que c'était important de nos auditeurs sans préjudice.
Une émission de papa. Voilà.
Pour commencer cette émission, Katia va nous parler de paranoïa.
C'est ça. Et je vais commencer par chanter une petite chanson. Ah. Pardon, amis auditeurs. Et eh oh la gauche, et eh oh la gauche, on rentre du boulot. Et eh oh la gauche, et eh oh la gauche, et eh oh la gauche, et eh oh. Voilà, pardon. Alors là, tout de suite, vous voyez pas encore le lien avec mon titre, et c'est normal, pas de panique, ça va venir. Donc, tout comme des milliers de Français, voire des millions, c'est fort possible, ça dépend de qui compte, j'étais l'autre jour complètement désolée devant ce nouvel intitulé qui venait exploser dans notre pauvre et vide paysage politique au pouvoir. Désolée devant la découverte de la soi-disant nouvelle punchline du Parti Socialiste avec son « Eh oh la gauche ». Et comme des milliers, voire j'en suis sûre, c'est pas possible autrement, des millions de Français, j'étais entre rire et larmes, entre moquerie et désespoir, entre surprise absolue et incrédulité, entre pince-mi et pince-moi sont sur un bateau quand tout à coup le fond, le contenu, l'histoire, les valeurs et le bon sens, la dignité aussi, et pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Ou pince-moi tout court, je rêve. Le tout donc en réaction spontanée face à ce EO ridicule et vide de sens, pour reprendre l'expression d'un grand intellectuel de notre monde contemporain, Nicolas Sarkozy. Et donc, je me suis retrouvée à reprendre en cœur, en arrosant le tout de mes rires ou de mes larmes, les réactions des médias plutôt moqueurs ou désemparés devant ce EO, qui ressemblait à s'y méprendre au titre d'un nouvel épisode de Oui Oui, ou à un générique de fin de dessin animé de Gulli. Bref, nous réagissions tous en cœur face à ce EO, quand tout à coup, une grosse crise de paranoïa m'a envahi et transi d'effroi. Du gros lourd. Et je vous cache pas que quand une crise comme ça vous prend, il faut absolument réagir, se prendre à main, aller très très vite, consulter. Les urgences psychiatriques, c'est fait pour ça. V'là-t-y pas que je me suis mise à cogiter et à imaginer n'importe quoi. Je me suis dit non mais attends, faudrait pas qu'en fait, ils aient embauché un chargé de com méga fourbe et diplômé expert en manipulation, qui aurait volontairement inséré un truc aussi naze que ce EO pourri, histoire de nous fixer l'attention là-dessus, et de nous faire volontairement rire, persifler, critiquer, moquer, raconter, ridiculiser, bref, tout ce qu'on veut, mais pour que pendant ce temps-là, eh ben, en fait, on se répète, et on répète à tout le monde aussi, la suite de la phrase. On oublie celle-là. Et oui, pendant tout ça, on répète à loisir, en évoquant le Parti Socialiste Grand Cru 2016, le terme... La gauche.
La gauche. Non, mais j'avais complètement pété la durite. Je me suis mise à imaginer qu'il y avait un gars, voire plusieurs, suffisamment malins et manipulateurs pour faire en sorte de trouver une supercherie qui ferait que les détracteurs de la QVPS 2016 deviennent, sans s'en rendre compte, c'est plus énergique que publicitaire. Et qu'il serait en plus, grâce à cette manœuvre, ce qui ramènerait et revéhiculerait la définition de « gauche » accolée au nom du PS. Alors même que, franchement, le PS, ça ressemble là maintenant tout de suite autant à de la gauche que ce que de la merde ressemble à du chocolat. Il y a peut-être quelque chose au niveau du packaging,
il y en a
du
qui
visuel.
Se trompent.
Ouais, mais ça doit faire bizarre dans la bouche.
Ah oui.
Donc niveau couleur, il y a un truc, de loin quand même, hein, dans un endroit peu éclairé. Mais niveau processus de fabrication, matière première, effet sur la santé en cas de consommation, goût, odeur, rien à voir, on est d'accord. Non mais sans déconner, j'étais quand même en train d'imaginer qu'ils avaient fait exprès de nous faire réagir sur ce pourri et haut, juste pour nous faire dire et donc ensuite repenser la gauche. Vous comprenez mon délire, hein ? Genre en mode, comment on appelle ça déjà ? Message subliminal, un truc du genre. Là vraiment j'allais beaucoup trop loin, la paranoïa c'est quand même un truc glaçant, quand ça t'arrive tu te fais flipper toi-même. J'ai donc embarqué illico presco dans ma voiture pour me rendre en panique complète aux urgences psy. Et puis là, j'étais tellement effrayée de moi-même que j'étais prête à avaler autant de petites pilules que voudrait bien me prescrire un médecin sensé pour calmer mon mental. Et puis sur la route, je sais pas pourquoi, je me suis mise à repenser à un collègue à moi qui se plaît à dire que c'est important de savoir avoir une part de paranoïa relative. La paranoïa relative, ça n'a rien à voir avec le complot. Le complot, c'est un degré méga au-dessus. Non, juste la paranoïa relative, il explique qu'il s'agit de ne pas en avoir pas trop non plus. Juste un niveau acceptable, qui nous permet à la fois de pouvoir vivre en société, y agir, avoir des relations amicales, familiales, mais quand même en avoir un petit peu pour aiguiser notre vigilance, pour être alerte face aux tentatives de manipulation, d'endormissement, pour entretenir une vigilance sociale salvatrice si on a quelques principes et quelques valeurs qu'on tient à défendre. La paranoïa relative. En fait, finalement, mon délire, il était peut-être relatif, plus que paranoïaque, finalement. Alors j'ai fait demi-tour en remerciant ce collègue dans mon fort intérieur. Je suis rentrée chez moi, en paix. Et je me dis aujourd'hui que dans ce slogan paranoïaque, ou pas, sur comment il est venu là, le pire c'est pas ce EO, c'est bien la gauche. Le pire c'est pas de chanter du Gulli, le pire c'est de vendre de la merde dans des paquets de chocolat. Info du jour, bonjour, info caca, info chocolat, le 49.3.
Ouais.
On enregistre mardi.
Mardi, ouais.
Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Le 49.3 est tombé pour faire passer la loi travail. Et du coup, j'ai un petit jeu qui n'est pas très fin. Je vous la joue, vous, mais quand même un petit jeu. Alors, le but, c'est que je vais dire deux trucs. Et il faudrait que chacun, son tour, on essaye de trouver quel est le point commun entre ces deux trucs. Le dernier qui trouve le dernier point commun, après, il n'y a plus d'idée, il a gagné. Alors,
nos invités peuvent jouer, bien sûr.
Voilà. Quel est le point commun entre l'utilisation du 49.3 pour la loi travail et un acte de viol?
Ça colle avec l'actualité. Je meuble un petit peu comme ça, vous pouvez commencer à réfléchir à des choses. Avec l'actualité, avec ce cet élu Europe Écologie Les Verts, ex-Europe Écologie Les Verts. Qui s'est fait pincer pour harcèlement sexuel et agression sexuelle.
Alors le point commun.
C'est un passage en force, on ne demande pas l'avis aux gens.
Oui, voilà.
Oui. Ouais. Ok.
Je sais pas.
Moi j'avais... ces victimes risquent d'avoir un désir de vengeance si la justice à un moment donné ne fait pas très vite réparation.
Ouais. Mmh.
Si on essaye d'aller porter plainte contre le violeur, on va nous rire au nez.
Si on vote le 49.3, on passe pour des gens qui sont pas démocrates. C'est un peu la menace qu'on fait pour les socialistes frondeurs en disant ouais mais non mais c'est soit vous votez cette loi-là, soit c'est quand même tout notre gouvernement et tout le travail qu'on a fait qui disparaît. Donc on essaie de faire culpabiliser celui qui voudrait se défendre.
La victime,
pas mal.
C'est bon là.
Ouais, c'est pas mal. Et puis la victime, elle l'a bien cherché parce que si quand même elle veut travailler tout ça là.
S'ils n'avaient pas gueulé comme ça.
Bon. S'ils n'avaient pas mis des jupes courtes pendant les manifs, on n'aurait pas eu besoin du 49.3.
Ces auteurs devraient aller en prison.
Ah oui, enfin je sais pas, oui. Pour le 49.3, bon.
Les auteurs de la loi.
Les auteurs du passage en force démocratique.
Mais le 49.3, il passe de toute façon jeudi. Donc ça se trouve là, au moment où on est diffusé, on n'a peut-être plus le gouvernement. Hein, s'il est passé, va savoir qu'est-ce qui nous attend. J'y crois pas trop, mais bon.
En tout cas, ça fait pleurer Mini Roquette. Hein, elle voulait avoir un droit du travail qui se respecte.
Ah bah non, mais t'auras pas de travail, bébé.
C'est pas vrai, les écoute pas. D'ici là, il y aura la révolution. Peut-être.
Eh oui.
Bon voilà, non mais c'est désolant en fait. C'est désolant.
Ouais.
J'ai pas d'autres mots.
Tu sais, quand tu parlais de EO, la gauche, que du coup on associait, ça me faisait penser enfin, au final, on a beaucoup parlé de ce « Eh oh, la gauche, eh oh, la gauche ». Ça a été repris, comme tu dis, sur plein de temps. Et pendant ce temps-là, ben, on n'a pas parlé que le projet de loi travail avancé. On n'a pas parlé des sujets importants. Et les Anglais, ils appellent ça la technique du « dead cat ». Du chat mort, c'est ce qui s'est passé aussi pendant l'élection du maire de Londres à Londres. ceux du camp de celui qui a perdu essayaient de mettre pendant les débats de mettre en avant qu'il était musulman et comme ça on ne discutait pas du fond des programmes, on discutait du fait qu'il soit musulman ou non quoi. Et est-ce que c'était un danger? C'est détourner l'attention, quoi. C'est balancer un chat mort sur la table et voir ce qui se passe.
Quand je dis que c'est de la paranoïa, enfin, vous avez compris, moi, je pense même que c'est pire que détourner l'attention. Je pense même que c'est vraiment utiliser volontairement un truc qui peut paraître risible, mais qui, en fait, ne l'est pas. Et qui nous fait ressasser que, en fait, la gauche, c'est ça. Et on n'a plus de débat de fond, en fait, sur qu'est-ce que c'est que la gauche, qu'est-ce que c'est un projet de politique de gauche et quel était le projet de départ pour lequel... des électeurs avaient cru et voté.
Histoire d'essayer de tirer tous ceux qui se revendiquent de gauche vers le fond avec eux, je pense aussi. Quoi. C'est parce que voilà, enfin, il y a une méfiance des électeurs maintenant sur les termes droite gauche et même, enfin, la gauche. On associe ça au Parti socialiste et ils essaient d'éviter qu'il y ait une concurrence de gauche qui apparaît à leur gauche justement. Tiens, première question pour nos invités. L'ALR, est-ce que c'est de gauche?
Ah, vous ne attendiez pas, vous ne pensiez pas que l'interview allait commencer si vite.
Interro surprise.
Alors de gauche, il faut voir déjà ce qu'on entend par gauche. Parce voilà. Que si c'est la gauche parlementaire, on va dire, qui tend à arriver au pouvoir au moyen d'élections ou autre, hein, même à travers la lutte armée, sait-on jamais, du coup non. Enfin, on n'est pas de gauche, parce que nous, notre objectif, c'est pas d'arriver au pouvoir. C'est vraiment le point duquel on se différencie avec tout le reste de...
Tout à fait, on est complètement hors système politique. Parfois, on est perçu comme la gauche de la gauche, mais on récuse complètement...
Extrême gauche, extra-gauche...
Voilà, du tout, nous sommes hors de tout système de partis, de syndicats. Nous refusons le système dans tout ce qu'il a d'organisé et de canalisant les citoyens, comme on dit.
Après, au niveau quand même des points communs, c'est clair qu'on a peut-être plus d'affinités avec certains courants dits à gauche, par exemple communisme, etc., parce qu'on est censé partager certains points communs, donc...
Au niveau des valeurs plus qu'au niveau de l'organisation.
Oui, ou du projet politique global. Après, c'est sûr que si on n'est peut-être pas de gauche, on est encore moins de droite, quoi. Parce que
complètement... C'est sûr, mais ce qui est compliqué pour nous aussi, c'est la question de l'action. C'est-à-dire, quand on est hors de tout système, on peut être conduit à finalement ne rien faire, ne se retrouver dans aucune des actions menées. Et c'est aussi ce qu'on refuse, puisqu'on veut aussi agir dans la société. Et donc, parfois, on se retrouve dans des combats similaires avec des camarades avec lesquels on ne partage pas forcément le même objectif. Nous ne sommes pas réformistes, nous ne voulons pas modifier la société, nous voulons changer radicalement de société. Mais par exemple, sur contre la loi travail, nous avons manifesté, nous avons tracté, on a été actifs. S'il y a donc par moment des luttes qui se rejoignent, qui se croisent. Seulement, nous, notre objectif, il n'est pas de réformer la société, il est bien de changer complètement la structure de la société. En ça, on ne prône pas de réforme du capitalisme, par exemple. Nous sommes profondément anticapitalistes et anti-libéraux, c'est-à-dire que nous refusons ce mode de fonctionnement, mais dans sa totalité. On ne pense pas, comme le PCF, qu'on puisse humaniser le capitalisme. On pense que le capitalisme dénature profondément la nature humaine, et donc nous voulons sortir complètement de ce système. Il n'est pas possible de s'arranger avec lui.
D'accord. On va faire une petite pause musicale, parce qu'on parle, mais... Il faut aussi écouter un peu de musique. Et j'avais envie d'écouter une chanson de Ella Fitzgerald qui s'appelle Hard Hearted Hannah.
In old Savannah, I said Savannah, the weather there is nice and warm, the climate's of the southern brand.
But here's what I don't understand. They've got a gal there, a pretty gal there, who's colder than an Arctic storm. Got a heart just like a stone. Even ice men leave her alone. They call her hard-hearted Hannah, the vamp of Savannah, the meanest gal in town. Leather is tough, but Hannah's heart is tougher. She's a gal who loves to see men suffer, to tease them and thrill them, to torture and kill them. Is her delight, they say. I saw her at the seashore with a great big pan. There was Hannah pouring water on a drowning man. She's hot-hearted Hannah, the vamp of Savannah, G.A. They call her hot-hearted Hannah, the vamp of Savannah, the meanest gal in town. Talk of your cold, refrigerating mamas. Brother, she's a polar bear's pajamas. To tease him and thrill him, to torture and kill him, is her delight, they say. An evening spent with Hannah sitting on her knees is like traveling through Alaska in your PPTs. She's hot-hearted Hannah, the vamp of Savannah, G.A. Imagine a woman as cold as Hannah. She's got the right name, the vamp of Savannah. Anytime a woman can take a great big pan, start pouring water on a drowning man. She's hot-hearted Hannah, the vamp of Savannah. She's sweet as sour milk.
Les roquets rouges, ils crient, ils mordent et ils s'enfuient. Du roque et du rouge.
Alors, on se retrouve au Roquet Rouge, sur CFM Rodez 107.9. Et avec nous aujourd'hui, donc, on va dire les camarades, hein. De la LR, si vous permettez.
On peut, ouais.
Oui, on se sent camarade. Voilà.
Donc c'était effectivement, j'avais découvert la LR en passant devant un local où il y avait des, comment dire, des feuilles de chou qui s'appelle. Alors j'ai Rodez la Rouge en tête, mais c'est pas ça.
Non,
c'était
non.
Vous qui faisiez Rodez la Rouge aussi?
Non, c'était un camarade qu'on connaît aussi.
D'accord. Mais... Et vous, votre journal s'appelle
Réfractaire.
Le Réfractaire, voilà, ça m'en revient. Voilà. Et donc j'ai lu ça et je me dis tiens, ça a l'air sympa, ça. Ça a l'air, on va dire pour le code couleur, plus noir que rouge, mais au roquet, on aime bien aussi cette couleur-là. Ils se sont dit, ce serait une bonne idée de les inviter au roquet pour découvrir. Alors, c'est nouveau, la LR ?
La LR elle-même, c'est assez récent, oui.
En tant que groupe, ouais, c'est assez récent. Si tu veux, nous, on s'était à la base regroupé autour du journal,
ouais.
Le Réfractaire, justement, il y a, je sais pas, un an et demi, peut-être.
Voilà.
Et au fur et à mesure, le nombre de personnes a commencé à croître et on a décidé de se regrouper plutôt en groupe. Et donc, le journal est devenu organe du groupe.
D'accord. Alors, ce groupe-là, on peut le dire déjà, vous avez un local, on le redira à la fin de l'émission, mais vous avez un local qui est rue Bonald, c'est ça ?
Oui, au Rondeau, voilà. Oui.
Mm-hmm. Et alors, qu'est-ce que vous y faites dans ce local ? Quelles sont vos activités ?
Il sert essentiellement à nos réunions.
Mm-hmm.
Parce que avant pour le journal, on se réunissait dans les lieux publics. On n'est pas toujours très à l'aise. En général, quand on discute anarchisme au milieu de plein de gens, ça peut permettre peut-être à la population du Ténor de savoir qu'on est là, mais c'est pas évident de développer certaines idées au milieu de toutes les oreilles. Ça serait dommage de tomber sur le patron à côté qui écoute et qui découvre qu'on anime un groupe anarchiste, quoi.
Il y avait aussi une volonté d'avoir une certaine visibilité en plus et peut-être que les gens puissent, par exemple. Tous les mois, si tu veux, on a une matinée samedi matin où les gens peuvent passer au local, prendre un journal, discuter, tout ça.
Mm-hmm.
Donc peut-être dans cette optique-là de s'ouvrir plus aussi.
D'accord.
Bon. C'est quel samedi si on veut passer vous voir? C'est le premier, le deuxième ou c'est anarchique
Non, là-dessus, on est très ordonné. C'est le premier samedi du mois de 11h à 13h.
D'accord. Ah bah alors justement, là, Miss Rocket fait esprit de faire un amalgame entre anarchie et anarchisme. Alors est-ce que vous pouvez, je vais pas vous faire la souffrance de définir en une phrase, mais en quelques mots, un petit paragraphe, alors c'est quoi ça, l'anarchisme? Est-ce qu'il y a une différence déjà entre anarchisme et libertaire?
Cas peut-être, où tu veux.
Vous avez 2 heures.
Il peut y avoir une différence dans le sens où l'anarchiste, lui, de la liberté, il en fait sa finalité. Tandis que le libertaire, il va vouloir. Il va prendre ça comme une action et donc vouloir vivre en liberté tous les jours. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est pas flagrant comme.
D'accord.
Après, d'un point de vue plus historique aussi, quand le terme a été créé, par Joseph Déjac, donc c'était pour l'opposer à Proudhon.
Libertaire, c'est ça?
Oui. Ouais. C'était pour l'opposer à Proudhon qui disait libéral parce qu'il continuait dans sa vision des choses à avoir un peu de considération pour la propriété privée et qui était aussi un peu misogyne, faut le dire. Donc qui n'était pas pour une égalité totale.
Un petit peu antisémite aussi, Proudhon.
Aussi, ouais. Mais... Donc personnage un peu à charge. Mais il n'y a pas de Proudhonien chez la LR, donc ça va.
D'accord. Est-ce qu'on peut être Proudhonien et. C'est quoi être Proudhonien là? Tu dors une perche là.
Ah, Proudhonien,
Proudhon, c'est on le dit pour les auditeurs, c'est un penseur, un théoricien de l'anarchisme au 19e siècle, hein, on peut dire ça.
Voilà, donc un des.
Qui se réclame de l'anarchisme.
Un des rares aussi à être issu de la classe ouvrière.
D'accord.
Ce qui, à l'époque, au niveau des penseurs philo-politiques, n'était pas chose évidente. Et dans sa considération à lui, c'est pas la vision communiste qui est plus majoritairement répandue de l'anarchisme. C'est ce qu'on appelle le mutualisme. Mmh. Il voit la société anarchiste comme une association de producteurs. Et là où ça se différencie vraiment du communisme, c'est que les producteurs sont propriétaires de leur production et collaborent entre eux. Mmh. À l'inverse du communisme, où il n'y a plus de propriété privée, plus de propriété de moyens de production, et où tout est mis en commun et redistribué selon les besoins de chacun.
Bien, c'est bon.
Merci, moi ça m'éclaire vachement.
Alors vous réunissez, est-ce que Chambre va rester dans le, allez, on va rester, je vais dire entre guillemets intellectuel, mais pour moi c'est pas péjoratif. Vous avez une base théorique, qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme autre auteur, tiens, par exemple pour quelqu'un qui voudrait découvrir l'anarchisme, qu'est-ce que vous aurez comme conseil, voilà, de première lecture.
George Orwell.
Tiens,
peut-être.
Pourquoi pas.
Moi ça serait. Bon, après l'anarchie, c'est beaucoup de sensibilités diverses.
Ouais.
Nous-mêmes dans le groupe, on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. Enfin, disons que c'est une interrogation perpétuelle. Et c'est, on n'est pas anarchiste, c'est un travail sur soi pour l'être, pour c'est quelque chose en devenir. Voilà, la vie fait que on peut pas toujours se comporter en anarchiste, on n'a pas toujours des idées anarchistes, c'est un travail sur soi pour se libérer de certaines formes de conditionnement de pensée. Donc tous les auteurs sont les bienvenus.
Quand tu disais Orwell, tu penses, parce que moi Orwell, je le connais par ses fictions. Ces romans comme 84 ou La ferme des animaux, c'est ça que tu pensais ou il a des écrits plus théoriques?
Il a écrit un livre qui s'appelle Hommage à la Catalogne,
ouais,
aussi.
Très très bien, ouais.
Oui, il raconte.
Parle de la guerre d'Espagne.
Ouais, exactement.
Parce qu'après les philosophes anarchistes, ceux qui ont vraiment pensé l'anarchie à la fin du 19e siècle, ils sont pas très attrayants, ils sont parfois ennuyeux et bon, je pense que c'est plus une façon de vivre que.
Après,
donc
surtout,
ça, on trouve ça chez Orwell.
Ils ont le défaut, ouais, déjà de pas être accessible. Hein. Moi, dans mes débuts, j'essaie de m'attaquer à Dieu et l'État de Bakounine. Ça a plutôt tendance à refroidir. Hein.
D'accord.
C'est pas quelque chose, c'est pas tellement concret, c'est pas d'actualité, hein, parce que les philosophes anarchistes, bon, quand ils datent de plus d'un siècle déjà, il y a certaines problématiques qu'ils ne pouvaient pas connaître. Et il y a des choses qui ne nous parlent plus aujourd'hui. Personnellement, au niveau de l'apport théorique, philosophique, bon, je reste un inconditionnel d'Henri Laborie, donc c'est plus contemporain. Ça se base sur une étude biologique de l'être humain, sur l'étude du comportement. Pour moi, il donne de bonnes raisons aujourd'hui d'être anarchiste. Par exemple, l'analyse du pouvoir chez l'individu, comment ça fonctionne biologiquement, pourquoi les individus veulent le pouvoir. Il décortique en fait tous les mécanismes sociaux autour justement de cette notion de pouvoir qui explique que c'est un apprentissage et c'est aussi une fatalité tant qu'on n'a pas compris comment fonctionnait notre cerveau. Grosso modo, les individus cherchent ce qu'il appelle la dominance, c'est-à-dire être maître de l'environnement pour agir effectivement sur lui, efficacement. C'est des choses qu'on retrouve en politique. Par exemple, un groupe politique, un groupe qui arrive au pouvoir, va naturellement, on va dire, tendre à rester au pouvoir. Au niveau purement politique, c'est une analyse qui nous écarte un peu de la prise du pouvoir, parce qu'on se dit, oui, même des gens bien intentionnés qui arriveraient au pouvoir, qui voudraient plus tard le céder, et ils vont prendre goût au pouvoir, ils vont vouloir le garder, instaurer une bureaucratie, donc ça reprend un peu le pouvoir immaudit de cet anarchiste qui a fait la commune.
Vallès ?
Non,
une femme. Aussi,
Louise Michel, voilà. Michel. Louise Michel, mais c'est pas balancé comme ça. Ça se base sur une étude du comportement. Et pour moi, c'est des bases théoriques solides, justement, en tant que matérialiste.
Ok, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve après pour la deuxième partie de l'interview. Là, c'est une petite musique qui circule pas mal sur les réseaux sociaux et dans les manifs actuellement. Il y a un rappeur qui s'appelle l'Inconsolable. Et qu'à profiter de justement des mobilisations sur Mon Vieux que ça pour faire une chanson, une espèce de petit hymne des manifestations qu'il y a actuellement. On vaut mieux que ça.
La réforme du code du travail,
on vaut mieux que ça.
C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles,
on vaut mieux que ça.
Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille,
on vaut mieux que ça.
Qu'on laisse gouverner le patronat,
on vaut mieux que ça.
Qu'on cesse de gouverner par vos lois,
on vaut mieux que ça.
Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits,
on vaut mieux que ça.
La loi et le Khomri,
on vaut mieux.
Et toutes ces conneries,
on vaut mieux.
Marre de ces moqueries en haut lieu nous,
on vaut mieux que ça.
Que toute leur tromperie,
on vaut mieux.
Ça paye pas le bon prix,
on vaut mieux.
On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais,
on vaut mieux que ça.
La réduction des temps de repos, les salaires peuvent faire de gros bons en arrière quand le haut de la pyramide le faut. D'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée, repos et euros à journée, non,
on vaut mieux que ça.
Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées, les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour, les heures semaines à 24 heures, la semaine à 35 heures, et d'autres acquittent à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs, à qui cette loi fait des faveurs, que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se gourer, c'est pas pour aider le salarié car
on vaut mieux que ça.
Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent en avirer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au lieu de ça, blagues qu'ils pourront se faire sans raison, mais
on vaut mieux que ça.
Face à 10 à 12 heures de travail par jour,
on vaut mieux.
L'extension du dispositif forfait jour,
on vaut mieux.
Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour,
on vaut mieux.
Oui, patron Jacques,
on vaut mieux, ouais, on vaut mieux que ça.
Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser,
on vaut mieux que ça.
S'enliser dans l'entreprise et se mépriser,
on vaut mieux que ça.
S'échiner,
mieux que ça.
Et se ruiner,
mieux que ça.
Et trimer pour déprimer, puis déprimer,
on vaut mieux que ça.
S'abîmer pour pas un rond pour des patrons,
on vaut mieux que ça.
Sous les recommandations d'Emmanuel Macron,
il vaut mieux pas.
Chez Fayon,
on vaut mieux que ça.
Et la pente, c'est ça qu'on compte en fait d'affront,
on vaut mieux que ça.
Faire taf, non,
on vaut mieux que ça.
On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le petit boulot. Pour l'heure,
on vaut mieux que ça.
On vaut mieux que bosser au McDo, mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado,
c'est vrai qu'on vaut mieux que ça.
Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier, on est tous dans le même panier,
et on vaut mieux que ça.
Notre pouvoir pourront pallier, tant ils vont voir qu'on est panier si on cesse les accompagner,
car on vaut mieux que ça.
Grève générale, ad vitam aeternam, bâti par les réclames, tactique par les drames. Pour la bourgeoisie, car tricard, qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme, sans salariat.
Aïe aïe aïe,
ça va pas, ah bah ça tombe bien, combien vaut-on à ce stade-là. On vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix. Pas de prix.
On vaut mieux que ça.
Moi, président de la République, je suis très très.
Bâtissons, on peut le dire.
Ladies and gentlemen, we got.
Je croirais chez les bolcheviks.
Vous êtes toujours sur CFM, dans les Rockets Rouges. On écoutait donc On vaut mieux que ça de l'Inconsolable. Et bah justement, on va rester avec nos invités de l'Alternative Libertaire Ruthénoise sur ce thème-là, puisque c'est quand même l'actualité. Je pense que la semaine prochaine, ça le sera encore. Alors, on sera diffusé sur les Nuits debout et les mobilisations sociales qu'il y a actuellement dans notre doux pays. C'est quoi votre regard, vous, sur cette forme de mobilisation de Nuits debout, sur ces assemblées générales qui se font dans des plusieurs centaines de villes en France? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est autogestionnaire pour vous? Est-ce que c'est anarcho-compatible?
Alors,
est-ce que vous y participez, vous, sur Rodez?
Alors, moi, on y est passé une fois ou deux pour dire bonjour aux camarades, ouais. Qu'on trouve très persévérants. Et c'est vrai que ils sont là, ils reviennent. Moi, je trouve ça très beau, cette énergie qui est mise au service d'une nouvelle société, enfin une envie de changer les choses. Moi, enfin, je suis admirative de ces mobilisations. Malgré tout, moi personnellement, j'ai le sentiment que les choses, elles sont pas autogérées dans la mesure où c'est un package. Toutes les nuits debout, elles sont toutes identiques à travers toute la France. Elles ont une structure qui a déjà été pensée bien en amont. L'organisation sous forme de commission, sous forme d'AG.
Par qui
Par Nuit Debout. Enfin, les codes même, les codes d'expression dans les AG sont tous les mêmes.
Ça s'inspire, ça s'inspire des indignés, de Podemos.
Voilà, en tout cas, bon, nous on s'interroge un petit peu sur... c'est pas un mouvement spontané, on sent bien qu'il y a déjà une structure qui existe. Quant à nous faire prendre la parole à tour de rôle en attendant 5 minutes et en faisant des gestes, bon, moi personnellement je peux pas, je me sens pas là-dedans. Donc ça c'est sur le côté autogéré. Après il s'agit pour moi d'une démocratie de type participative, et c'est pour nous c'est une dérive, enfin c'est un leurre, puisque nous, enfin les anarchistes croient en la démocratie directe. Et la démocratie directe, c'est vraiment l'expression de tous directement, sans passer par ni des organisateurs de débats, ni des représentants, aucune forme de représentant, aucun représentant n'est légitime à nos yeux. Et donc le souci, c'est bien que cette démocratie participative, sous forme de débat, d'AG, eh bien, elle est souvent prise pour une démocratie directe. Voilà, moi on me dit, c'est une démocratie directe, même le principe... Vous savez, du tirage au sort, c'est aussi des idées qui tournent un peu dans les nuits debout, l'élection par tirage au sort. Ah, mais c'est une démocratie directe parce que les citoyens sont élus, sont tirés au sort au hasard. Donc tout ça, c'est une espèce d'amalgame qui, pour moi en tout cas, est très pervers. C'est-à-dire qu'on confond démocratie directe et démocratie participative. On s'habille d'un semblant d'anarchisme, de rébellion, alors que c'est une démarche réformiste. On ne prône pas l'abolition, l'abstention totale aux élections. Donc moi j'ai du mal à m'y retrouver. Après, parler, discuter, échanger, c'est toujours un moyen d'éviter d'agir et de changer la société. Alors effectivement, nous-mêmes dans notre local, nous philosophons. On n'a pas de leçon de morale à faire à personne. Je sais que certains peuvent penser ça, mais disons que on n'est pas dans la posture. On pense qu'on peut changer les choses en informant, en éduquant, surtout en informant. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre démocratie, malgré tout, c'est quand même une forme de démocratie, on n'est pas dans une dictature, si les gens sont bien informés, ils peuvent d'eux-mêmes trouver que l'anarchie est un modèle de société idéal. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je suis venue à l'anarchie, par ma propre réflexion et par des constats. Et je pense que les gens sont suffisamment autonomes pour parvenir à l'anarchie par eux-mêmes. Il suffit d'avoir des informations et développer un esprit critique. Et pas par les discussions, pas par l'argumentation.
Florian, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, par rapport à Nuit Debout aussi, un aspect politique, c'est que c'est très marqué. C'est de ce qu'on a lu, en tout cas, dessus, c'est que c'est comme une initiative des gens de Fakir et d'économistes comme Lordon, qui politiquement sont très cohérents entre eux. Enfin, c'est un secteur de la gauche très précis. Et c'est, comme on parlait de la gauche tout à l'heure, c'est pas notre stratégie à nous. On a des méthodes antagonistes, cherchent à conquérir le pouvoir, nous à le détruire. Et les Nuits Debout sont très marquées par ça. C'est que, oui, les assemblées, etc., de citoyens, pourquoi pas. Après, l'étiquette Nuit Debout, à sa gênance, c'est que c'est Fakir et Lordon, quoi. Donc,
il le reconnaît, dans le dernier Fakir, Ruffin reconnaît que c'est pas spontané, qu'il a fallu construire ça, ouais. Et préparer ça en amont au moment du début du combat sur la loi El Khomri.
Voilà. Et de mon point de vue, je pense que si on veut voir des mouvements citoyens, populaires, spontanés, derrière faut un travail. La spontanéité, je pense pas que ça apparaisse comme ça. Faut un travail d'information, de publicité politique, on va dire, etc. Diffuser des méthodes d'action
qui vont faire qu'à un moment, les gens avec tout ce bagage.
Et c'est pas ce qu'a fait Fakir, tu penses?
Nuit debout, moi c'était la question que je voulais poser aussi. Ouais. Est-ce que Nuit debout, c'est pas finalement un outil d'information, un outil de débat, c'est vrai, mais aussi d'information. Et est-ce que c'est pas aussi un outil de création d'actions et de diffusion de ces actions? Tu parles de tract, de fly. Est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce que ça permet pas? Est-ce que ça participe pas à permettre ça aussi?
Il faudrait que ce soit ça. C'est le but.
Hein, après... C'est le but de leur nom, de sortir du ghetto. Gauchiste, très clairement. Il l'a dit, hein, le but c'est de sortir de ce ghetto gauchiste. On peut le comprendre parce qu'effectivement, nous souffrons tous d'une forme de ghettoisation puisqu'on est des minorités. Et, bon, enfin, lui le vit mal apparemment, nous on le vit plutôt bien. Mais voilà, la question c'est comment rallier les masses et les masses populaires, enfin, la masse ouvrière. Le problème c'est peut-être qu'on ne rallie pas les masses. Les masses, elles. Enfin, à mon sens, elle, spontanément, elle se retrouve dans certaines idées. Après, c'est
peut-être aussi, à mon avis, qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est que si on veut des mouvements spontanés de masse, il ne faut pas les créer artificiellement. Il ne faut pas se dire, tiens, on va créer un mouvement spontané, qu'on va appeler Nuit debout, etc. Il faut faire le travail en amont. C'est-à-dire...
Il n'a pas été fait, je reviens sur Fakir ou Lourdon qui travaille dans le diplôme. Ce n'est pas des outils, tu penses, qui permettent de conscientiser les gens?
Ça peut être des outils qui servent, oui. Mais si les gens n'arrivent pas à avoir les initiatives eux-mêmes, c'est qu'il n'est pas encore abouti le travail. C'est que si on veut des initiatives spontanées et populaires, il faut faire plus de travail, il faut diffuser, etc. Mais on n'aura même pas à se poser la question, elles viendront d'elles-mêmes, vu qu'elles sont spontanées par définition. Donc je ne pense pas que pour le moment, créer artificiellement ce genre de choses soit forcément très pertinente ou c'est peut-être pas là qu'il faut mettre le plus d'énergie, quoi.
Après peut-être qu'on se trompe, l'idée nous effleure souvent en se disant mais c'est peut-être le début de quelque chose que nous ratons. C'est vrai, hein, enfin, très honnêtement, très sincèrement. Peut-être qu'il va se passer quelque chose et que là, on n'aura pas été à l'origine. Bon, ça serait dommage pour nous. Mais bon, moi, je crois pas trop. Mais bon, c'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Quoique, bon, moi, personnellement, de plus en plus, je me demande si la révolution, c'est un moyen de changer la société. S'il n'y en a pas d'autres qui, sans être réformiste. Bon, après, voilà, je crois que l'anarchie, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, elle a été pensée par des hommes à la fin du 19e siècle. Notre société a beaucoup évolué. Et certainement qu'il y a un vide. Il faudrait repenser l'anarchie, c'est ce qu'on disait avec Lucas la dernière fois. La moderniser, la repenser. Et que là, il y a peut-être un travail à faire. En tout cas, en ce moment... Les gens sont vraiment tellement déçus des systèmes politiques que c'est un moment favorable pour nous. C'est vrai que la loi, toutes les manifestations, là je pense que Lourdon et Ruffin ont saisi l'occasion des grandes manifestations contre la loi travail, et notamment la toute première, puisqu'elle avait une forme presque auto-organisée. Ça c'est vrai. Par le biais des réseaux sociaux, la toute première manifestation, elle était très sincèrement spontanée. Et nous, on a foncé, on a fait des autocollants, on a tracté, parce que vraiment, ça, c'était une belle chose. Mais bon, elle est retombée.
L'émission avance, hein, on doit... Rapidement, donc le réfractaire, où c'est qu'on peut le trouver, par exemple?
Au local, déjà.
Au local, ouais.
Et ensuite, on le diffuse plus ou moins officieusement au Café de la Paix.
D'accord.
Vous en trouvez quelques exemplaires. Après, quand on le diffuse occasionnellement...
Vous avez un site internet aussi?
Un site internet, ouais, bah, tu peux tout consulter.
Donc on fera un lien sur le Facebook des Rock et Rouge, vers le site de l'ALR, c'est ça?
C'est ça, le site du réfractaire. Ouais.
Bon, on va faire une petite pause musicale. Et ben, une nouvelle chanson sur, bizarrement, Anna. Vous aurez peut-être deviné le prénom du nouveau bébé roquet qui vient de rejoindre l'équipe. Et ça, là, c'est les Beatles, et c'est classe, voilà.
Say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Go with him.
finger. You give back your ring to me, and I will set you free. Go with him.
Ladies and gentlemen, we got it.
On se croirait chez les
bolcheviks.
On est de retour dans, pour cette dernière partie des Rock et Rouge, et toujours avec les copains, les camarades de l'Action Libertaire Ruthénoise. Et alors, dernière question, qu'est-ce qu'on y fait à l'Action Libertaire Ruthénoise quand on s'engueule pas, sur les différentes définitions de l'anarchie, si j'ai bien compris, et de la révolution? Qu'est-ce que vous avez là, est-ce que vous avez un agenda de prévu, ou est-ce qu'on peut vous rencontrer en dehors des premiers samedis du mois? Est-ce qu'il y a des happenings?
L'activité principale de la LR, ça reste le journal.
C'est ça.
C'est autour de ça qu'on s'est retrouvés. Et c'est aussi, je pense, pour tout le monde, le point principal, c'est diffuser de l'information. L'information est aussi un point de vue politique qui diffère de ce qu'on y trouve dans les médias de masse ou ailleurs. Donc c'est vraiment diffuser l'anarchie à travers le journal, donc. Aussi à travers un moyen d'autocollants ou occasionnellement de tracts.
Les tracts, vous les distribuez où?
Alors, on en a fait sur le marché de Rodez. Mm-hmm. Pour l'instant, qu'au marché. Quoi.
Sur les manifestations contre les lois, la loi travail, on a tracté à Monteil, je ne sais pas si à Foch.
D'accord, je vais ouais, il faut rappeler que la LR, c'est pas... C'est différent de, il y a des syndicats, il y a des, comme la CNT qui sont anarches, il y a des groupes politiques comme la Fédération anarchiste, vous dissociez de ça. Enfin, j'avais compris quand on avait discuté, quand je vous avais rencontré, que vous n'êtes pas opposé à ça, mais vous avez choisi de pas rentrer dans ces modèles d'organisation.
On aurait très bien pu se regrouper comme une antenne de ces groupes-là, mais c'était aussi le souhait de pas avoir forcément de passif.
De logo, ouais, c'est ça.
De logo, ouais. Il y a toujours eu une ligne du parti, entre guillemets, en fonction des fédérations aussi, donc voilà. Mmh.
D'avoir notre totale autonomie, ouais, quoi, voilà. Ah, okay. Déjà. Et puis de marquer aussi, surtout, l'ancrage local, à travers le terme de l'Outénois, c'est pas quelque chose d'abstrait, de l'antenne, enfin, une orga de Paris qui vient balancer 2-3 militants, ouais, par là, et voilà.
Une spontanéité de la création de l'ALR, on va conclure là-dessus comme ça. Voilà. Ok, ben merci. Hein. On mettra tous les liens sur la page des Roquets. Il nous reste du temps. Je dis ça parce que je sais combien il reste de temps, mais c'est pour faire une petite transition. Voilà. Donc moi, j'avais très rapidement pour les auditeurs, j'ai deux conseils de lecture qui sont un petit peu en lien justement avec les questions de l'anarchie. Alors c'est un livre et un article. Et l'un et l'autre parlent de la même époque et d'un même lieu, c'est-à-dire les États-Unis entre 1917 et 1920. Et ce qui est hallucinant, c'est le parallèle avec aujourd'hui. Car c'est la situation est super proche. Alors, le premier conseil de lecture, c'est un article du Monde Diplo d'avril 2016, qui est en quatrième de couverture. C'est Les barbares sont parmi nous. Alors, il est d'opulé tranquillos, débrouillez-vous pour le trouver, mais je pense sur le site, vous le trouverez bientôt du Monde Diplo. Et ça nous raconte un peu que, au moment où les États-Unis entrent en guerre en 1917, la population et les pouvoirs publics s'inquiètent d'une minorité, qui n'a pas la même culture que les Américains, qui n'a pas vocation à s'intégrer. Et ce sont les Allemands. qui sont une très forte minorité. Il y a un Allemand sur 10 en 1917 qui a, un Américain sur 10 qui a des origines allemandes. Ça représente 8 millions d'habitants aux États-Unis. Il y a 500 quotidiens ou hebdomadaires qui sont en langue allemande aux États-Unis. Et ça inquiète justement les Américains de souche parce qu'ils sont en guerre avec l'Allemagne. Et donc peut-être que c'est des potentiels terroristes. Et je le répète, ils n'ont pas la même culture. Donc dans l'article, c'est marrant. Ils ont fait ça aussi avec les Français pendant la guerre en Irak. Ils rebaptisent la choucroute, ils la rebaptisent le chou de la liberté. Le hamburger, ça devient le sandwich de la liberté. Le teckel, qui était un dark hunt, devient le chien de la liberté. Mais c'était pas suffisant. Il y a d'honorables citoyens qui arrachaient les animaux à leurs propriétaires et qui les abattaient. On sait jamais, hein. Le teckel peut être dangereux, hein. C'est comme le roquet. Et, donc voilà.
Ils ont fait la même chose, enfin les Américains avec les Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement, il y a toujours un terroriste.
Il y a eu des camps qui ont été construits pour les populations américaines.
Les Américains aussi, j'imagine aussi, ils ont créé justement des lois d'exception, ça vous rappelle rien, voilà, qui sont toujours en vigueur aujourd'hui et qui ont permis d'emprisonner des Allemands à la Première Guerre mondiale et ensuite des Japonais, mais aussi de lutter contre les syndicalistes. Et ça a permis de démanteler des syndicats. Je pense que vous connaissez les IWW, les travailleurs industriels du monde, c'est intraduisible en français, qui était un syndicat, on va dire anarcho-syndicaliste, autogestionnaire, qui était très combatif, et ça, on les a considérés comme des terroristes, et on les a démantelés grâce à ces lois-là. Vous remplacez le mot allemand par musulman, et vous avez la situation d'aujourd'hui. Et deuxième livre, c'est un livre qui est de Denis Lehane, qui s'appelle Un pays à l'aube. Alors Denis Lehane, il est connu pour des polars. C'est lui qui a écrit notamment Shutter Island et Mystic River. Et là, c'est une fresque historique qui se passe à Boston en 1919-1920, où on suit plusieurs personnages, dont un noir. Donc on découvre toute l'ampleur du racisme qu'il y a à cette époque-là. Et un policier d'origine irlandaise qui est chargé d'infiltrer les milieux syndicalistes, lui aussi, et les milieux anarchistes, et qui va prendre fait et cause pour les policiers qui sont en train de se syndicaliser. Et là, c'est un ouvrage historique, et les policiers à cette époque-là ont des salaires en dessous du seuil de pauvreté, ils doivent travailler 3 semaines d'affilée, ils ont un jour de congé après, ils doivent payer leurs uniformes, leurs armes, ils sont vraiment, c'est vraiment des exploités, et on ne peut pas les payer plus. Pourquoi ? Parce que c'est la guerre, et parce que tous les crédits sont pour la lutte contre le terrorisme, encore une fois. Toute la situation va évoluer vers une grève générale des policiers, qui s'est vraiment passée en 1920, et qui a débouché. Alors, il y a eu 1500 policiers qui sont mis en grève et ça a provoqué 3 jours d'émeute parce que tous les gens en avaient marre, effectivement, et puis les groupes révolutionnaires ont essayé de faire monter la sauce. Il y a eu une trentaine de morts à ce moment-là et tous les syndicalistes policiers ont été licenciés. Et les nouveaux qui ont été réembauchés ont été embauchés sur les conditions que réclamaient ceux qui se sont fait virer, qui n'en ont pas profité. Voilà, et on trouve certains de ces exemplaires à la Maison du Livre, donc Un pays à l'aube de Denis Lehane. Voilà. Et moi j'ai vraiment halluciné sur ces deux articles-là, comme quoi c'est vraiment rien n'a changé entre le début du siècle dernier et ce début de siècle-là. Voilà. Katia, tu avais quelques conseils ou quelques infos à nous donner pour terminer.
Une petite annonce, du coup, ce samedi 21 mai au Krill, donc une soirée qui est à l'initiative de Regards sur l'exil et qui, sur cette date-là, s'appelle Regards croisés, avec dès 18h30 un apéro-concert, avec de la resto sur place au profit du collectif pour les réfugiés, et en suivant une conférence débat sur des évolutions juridiques préoccupantes, avec deux illustrations, l'évolution du droit des étrangers et la mise en œuvre de l'état d'urgence, avec des intervenants spécialisés sur ces deux questions. Voilà, et je rappelle que ça fait suite aussi à un goûter sur l'homoparentalité organisé par Alerte l'après-midi et suivi de la présentation du rapport sur l'homophobie.
Très bien.
Le même jour, au même endroit.
On va vous laisser. Oui. Il paraît qu'il y a un flash mob de la manif pour tous, en parlant d'homoparentalité. Alors on va aller voir à quoi ça ressemble s'ils sont plus de 5.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se fait des bisous entre. Est-ce qu'il y a un garçon de l'ALR qui est capable de faire un bisou avec moi sur le flash mob
On est en train de créer une action spontanée.
Oui, là.
Capable de tout.
Katia, en prend mini roquette, on dit que c'est notre fille à toutes les deux.
Ah, voilà,
ouais,
très bien.
On la met même sous mon t-shirt et comme ça on la fait sortir de mon t-shirt. Ouais.
Ah ouais, en mode elle aurait accouché en plein flash mob. Ouais.
Allez, on va leur...
D'ailleurs, tu l'as porté pour nous, hein, c'est ça.
Exactement.
On vous laisse et on va aller pourrir la maïf pour tous. Merci, Lailer, d'être venu.
Ah bah, merci de nous avoir reçus, surtout.
Avec plaisir. Merci. Et on se dit à dans 15 jours.
Et au premier samedi du mois, entre 11h et 13h, à votre local.
Rue Bonald,
c'est ça.
Ciao.
À bientôt.
Au revoir.
Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Say what? Oh, no.
Les Roquets Rouges sur CFM.